Salut les amis, c'est MTech. Et déjà, comme promis, il y a eu un petit moment, j'avoue, j'ai vraiment traîné pour sortir le podcast final du Vivo X51 5G, mais c'est le cas et ce sera à débriefer aujourd'hui. Premièrement, l'argument que Vivo met le plus sur ce produit, c'est la photo. Et on va se dire, qu'est-ce que la photo redéfinit en fin de podcast? Premièrement, parlons de l'écran de ce smartphone. Parce que ce smartphone est doté d'une très belle dalle de 6,56 pouces incurvés. J'avoue, ça c'est quand même assez rare, des écrans incurvés. Aujourd'hui, les constructeurs veulent plus des écrans plats parce que les utilisateurs aussi les veulent. Donc ça, c'est un petit truc délire à peu près. Bon, je crois que vous avez compris le truc. Aussi, on a un écran de 90 Hz, Full HD+, AMOLED, évidemment, de chez Samsung, avec une luminosité de 1300 nits. C'est tout simplement énorme. Franchement, c'est vraiment beaucoup. 1300 nits. On dépasse à peu près la luminosité maximale de certains iPhones. Bon, j'ai dit certains, mais bon. Ça, c'est vraiment très, très, très bon. Tout ça couplé à un design poinçonné en haut à gauche, ça fait que c'est une pure merveille côté design, quoi. Bon, ouais, reparlons du design parce que à l'arrière, on a un dos en verre mat avec un bloc photo. Le capteur principal est le capteur en haut. Il est vraiment énorme avec le système de gimbal. Ça, on va s'en reparler. On a en bas de ce capteur deux autres capteurs et en bas des deux autres capteurs, on a un autre capteur et on va se redéfinir tout ça après. Déjà, le design, ce que je remarque, c'est que le design est assez bizarre dans l'ensemble. Je sais pas, le design, mais franchement, il est à peu près chelou. Mais je peux pas dire franchement que c'est mon design préféré. Question design avant, on a un poinçon, comme je l'ai déjà mentionné. Mais on a aussi des bords qui sont quand même très, très, très fins. Et ce qui m'étonne, c'est que sur la tranche supérieure, on écrit 5G Professional Photography. Et on va se redéfinir tout ça aussi à peu près. En plus de tout ça, en plus de tout ce design assez chelou, on a quand même des haut-parleurs mono certifiés ARS Audio qui sont assez puissants, mais ça m'a vraiment dérangé qu'on n'ait pas des haut-parleurs stéréo. Ça, c'est un petit point négatif, mais c'est pas le truc le plus gravissime possible quand même. On a de l'USB-C pour le charger et on n'a pas de prise jack. Bon, un petit break si vous voulez. Pour les normes CE, je vous assure, ça casse un peu l'effet pragmatique du truc, quoi. Je sais pas, ça enlève un peu de soupçon du truc, je sais pas. C'est vraiment pas beau. J'espère qu'ils vont mettre comme Apple a fait cette année. En tout cas, je l'espère. Aussi, les tranches supérieures et inférieures sont vraiment, vraiment, mais vraiment plates. Donc, vous pouvez le déposer à plat, je sais pas, pour filmer, faire un truc dans le genre. Ça, c'est à vous de choisir. Question déverrouillage. On a la reconnaissance faciale 2D, pas du tout sécurisée. Et on a le capteur d'empreinte digitale sous l'écran que je vous conseillerais bien plus que la reconnaissance faciale 2D, pas du tout sécurisée, comme je l'ai encore dit. On est sur un poids de 180 grammes et le smartphone est certifié IP53 avec une résistance à l'eau. Qu'est-ce que cette résistance veut dire? Ça veut dire que vous ne pouvez pas l'immerger, mais quelques gouttes d'eau, ça va le faire. Et question couleur, on est sur l'alpha gris. J'ai oublié un petit point, c'est que ce smartphone est Bluetooth 5. Mais si vous êtes dans un pays qui dispose de la 5G et que vous avez un forfait 5G, un petit conseil, c'est que c'est une seule carte SIM qui sera compatible 5G. L'autre carte serait en 4G. Donc, je vous conseille de vous calmer un peu. Et si ça vous dérange, bah, attendez les prochaines versions. Dans quelques mois, avec mon nouveau Snapdragon 888. Aussi, parlons du processeur directement parce que ici on tourne sur un processeur Snapdragon 765G gravé en 7 nanomètres. Évidemment, ce n'est pas le Snapdragon 865 que j'attendais tant et bah ça fait grincer des dents parce que c'est le même processeur sur le OnePlus Nord qui coûte moitié prix et au même prix on a le OnePlus 8T et d'autres smartphones qui ont des processeurs bien plus puissants. En plus, au même prix, on a l'iPhone 12 mini qui est vraiment plus puissant et ça se sent clairement, mais ça veut pas dire qu'il est, je sais pas, dépassé de 1000 ans. Aussi, on a 8 Go de RAM qui permet une fluidité accrue et 256 Go non extensible. J'ai oublié un petit point, c'est que ce smartphone est Bluetooth 5. Mais si vous êtes dans un pays qui dispose de la 5G et que vous avez un forfait 5G, un petit conseil, c'est que c'est une seule carte SIM qui sera compatible 5G. L'autre carte serait en 4G. Donc, je vous conseille de vous calmer un peu. Et si ça vous dérange, bah, attendez les prochaines versions. Dans quelques mois, avec mon nouveau Snapdragon 888. Aussi, parlons du processeur directement, parce que ici on tourne sur un processeur Snapdragon 765G gravé en 7 nanomètres. Évidemment, ce n'est pas le Snapdragon 865 que j'attendais tant, et bah ça fait grincer des dents parce que c'est le même processeur sur le OnePlus Nord qui coûte moitié prix, et au même prix on a le OnePlus 8T et d'autres smartphones qui ont des processeurs bien plus puissants. En plus, au même prix on a l'iPhone 12 mini qui est vraiment plus puissant, et ça se sent clairement, mais ça veut pas dire qu'il est, je sais pas, dépassé de 1000 ans. Aussi, on a 8Go de RAM qui permet une fluidité accrue et 256Go non extensible. Question batterie et autonomie, on tourne sous une batterie de 4315 mAh avec une charge 30 watts. Donc pour une utilisation basique, vous tiendrez une journée et demie et la charge se ferait en moins d'une heure, ce qui est absolument dans la moyenne à peu près. Aussi, on est sur Fine Touch OS version réajustée pour le marché européen. Donc, vous inquiétez pas, vous n'allez pas être dépaysé. Ça va, c'est pas le truc le plus différent possible. C'est vraiment assez conservateur. Maintenant, il faut que je vous parle de ce que Vivo appelle en guillemets la photo redéfinie. Et est-ce que ce smartphone, ça considère la photo redéfinie à mon sens? Premièrement, parlons de la vidéo avant de parler de la photo en elle-même. Les vidéos sont en 4K 60 fps stabilisées. Évidemment, je veux dire très stabilisées. Vraiment, on dirait un smartphone ultra haut de gamme vendu à peu près à 400 euros plus cher. Bon, évidemment, il va pas aller rivaliser avec un iPhone 12 Pro Max qui, en termes de vidéo, est le meilleur sur le marché. Mais je vous assure, il fait vraiment le job. La stabilisation est vraiment clean. Mais vous amusez pas à courir avec, parce qu'il y a un système gimbal. Ça va bouger, c'est normal. C'est pas un vrai gimbal à, je ne sais pas, 20 000 balles, quoi. Bon, faites vraiment attention. Mais pour les petits trucs, ça va. Maintenant, parlons de la photo en soi. Parce que, premièrement, le capteur principal est de 48 mégapixels. La fameuse Sony MX598. Et franchement, l'appareil photo est vraiment très bien. Le traitement photo est nickel. On ouvre à 1.6 avec le système de gimbal à suspension à 2 billes sur 5 axes. Ce qui permet de limite détruire les micro-tremblements. Donc, si vous avez, je sais pas, une maladie qui fait votre main trembler, ou si vous-même naturellement vous tremblez de la main, vous inquiétez pas, vous ne le sentirez même pas. Et si vous ne tremblez pas de la main et que vous êtes déjà très bien portant, bah ce serait encore meilleur. Et ça, je vous assure, c'est vraiment rare d'en trouver à ce prix-là. On a un ultra grand angle plus la macro. Donc, on n'a pas de capteur macro développé pour un capteur de 8 mégapixels qui ouvre à 120 degrés avec une macro 2,5 cm à f2.2. Ça, c'est vraiment très bien. On a aussi un téléobjectif de 13 mégapixels avec une focale de 50 mm. Bon, Apple est un peu plus loin, mais bon, ça, on va en parler peut-être un autre jour, je vous fais un peu. On a un zoom x2 et on a un capteur téléobjectif périscopique de 8 mégapixels avec f3.4 qui fait un zoom x5 vraiment de bonne qualité, je vous assure. On va reparler tout ça un peu plus tard. Bon, le zoom maximum, on monte jusqu'à du x60, les amis. C'est énormissime. On a un capteur selfie de 32 mégapixels qui ouvre à 2.45 et ça, c'est assez cool. Bon, maintenant, quel est mon avis général sur la photo? Parce que c'est le point sur lequel je veux m'attarder le plus. Pas pour vous ennuyer, mais parce que c'est vraiment ce que Vivo a mieux défini. Premièrement, les zooms x2, x5 jusqu'au x20 sont extrêmement bons. Mais à partir du x30, du x40 et du x50, ça lisse énormément. Je n'ai rien à dire, mais à partir du x30, c'est à peu près inutilisable. Donc, vous déconseillez clairement. Le mode nuit est vraiment très bien, surtout avec le mode super lune. Les détails sont présents, même quand il fait noir de chez noir. On a, je sais pas, de la lumière. Mais je trouve que l'effet fake se fait un peu sentir. Parce que parfois, même quand le ciel est un peu noir, bah on voit comme si on était en pleine journée. Donc cet effet, ça c'est à vous de voir si ça vous plaît ou non. Mais parfois je constate que l'ultra il rentre en lisse. Même en journée, mais en nuit, je vous déconseille clairement l'ultra grand angle. Le zoom x500 est vraiment inutilisable. C'est juste pour espionner vos voisins. Ce que je vous conseille pas de faire, sinon si je suis vos voisins, arrivez, je vous pète la gueule. Mais bon, ça c'est une autre histoire, franchement. Mais le zoom x500 est inutilisable. C'est juste pour l'effet waouh. Le mode nuit est vraiment très bien. Moi, ça m'a vraiment surpris le mode nuit, surtout grâce au gimbal et le mode vidéo de nuit sont vraiment impeccables. Merci d'avoir suivi ce podcast. C'était MTech. Sleep.